Chapitre 10. C'est à l'époque dont Maître Tenbouy, le brave fermier du mont de Rouville, me parlait en ces termes, qu'un soir la vieille Clotte, qui avait filé à sa porte une bonne partie de la relevée, arrêta, fatiguée, le mouvement de son rouet. Elle regarda autour d'elle et appela la petite Ingou. « Petiote, » fit-elle. Mais Petiote ne répondit pas. La maison de la Clotte, détruite maintenant, s'élevait à peu de pieds de terre sur la route qui conduisait de Blanchelande au bourg de l'Essai, et elle n'avait pour voisinage à 2 ou 3 portées de fusil, sur le bord opposé du chemin, que la chaumière de la mère Ingou, dont la petite fille venait chaque jour aider la Clotte dans son pauvre ménage. Ce jour-là, cette petite, qui avait de bonne heure rangé le fait de la vieille Clotte, tentée par la beauté de la soirée et ses derniers rayons du soir qui conseillent le vagabondage, avait pris ses sabots sans bride à chaque main et s'était mise à dévaler le bout de la route en pente qui conduisait chez sa mère, élevant sous ses pieds nus de ces tourbillons de poussière chers aux enfants de tous les pays. C'était pour se procurer cette joie d'enfant que la petite Ingou avait oublié de dire qu'elle s'en allait à la Clotte et n'avait pas pensé à rentrer son rouet dans la maison. Or la Clotte, infirme, et qui avait besoin de ses 2 mains pour s'appuyer sur son bâton et gagner péniblement le fond de sa demeure, était tout à fait incapable de rentrer le rouet dont elle s'était servie une partie du jour à son seuil. « Comment ferais-je ? » se disait-elle, quand elle aperçut, se dirigeant vers elle, maîtresse le Hardouet. Elle venait lentement, la pauvre Jeanne. Elle ne marchait plus comme autrefois de ce pas ferme et rapide qui avait été le sien. Il y avait dans sa démarche quelque chose d'appesanti et de frappé, dont rien ne peut donner l'idée. Sa grande coiffe blanche, ce cimier de batiste qui allait si bien à sa physionomie décidée, elle ne la portait plus haut et d'un front léger. Et sans les velours noirs qui la rattachaient sous le menton, peut-être serait-elle tombée, tant la tête que cette coiffe couvrait s'inclinait maintenant sous la pensée fixe qu'elle emportait à son front, comme le taureau emporte la hache qui l'a frappée. Et voyant de loin venir cette femme, dont elle avait connu naguère la beauté et surtout la force, les yeux secs de la vieille Clotilde Mauduit, qui avait pleuré, disait-elle, toutes les larmes de son corps sur les ruines de sa jeunesse, ressentir la moiteur d'une dernière larme, la dernière goutte de la pitié. Elle savait toute l'histoire de Jeanne. Dès le premier jour, si on se le rappelle, elle avait soupçonné tout ce que ce fatal indifférent de Géoël, qui avait tué Dlaïde Malgie de désespoir, apporterait de malheur à la fille de loup de feu ardent, et elle l'en avait averti. « Fuyez cet homme, » lui avait-elle dit pendant quelque temps, avec l'espèce d'égarement qu'elle avait parfois, et que Jeanne-Madeleine croyait le résultat de son caractère ardemment ulcéré et de la solitude épouvantable de sa vie. Une voix m'avertit la nuit quand je ne dors pas, une voix qui est la voix de Dlaïde, que si vous ne fuyez pas cet homme, il sera un jour votre destin. Ne dites pas non, Jeanne de Feu Ardent. Est-ce que la fille des gentilshommes, ces nobles époux de la guerre, aurait peur de quelques blessures sur un front qui sait les porter? Vous n'êtes pas un de ces faibles cœurs de femme, éternellement tremblant devant des cicatrices et toujours prêts à s'évanouir dans une vaine horreur. Non, vous êtes une feu ardent. Vous descendez d'une de ces races irlandaises, m'a dit votre père, dans lesquelles on faisait baiser la pointe d'une épée à l'enfant qui venait au monde, avant même qu'il eût goûté au lait maternel. Non, ce ne sont pas les coutures de l'acier sur un visage ouvert par les balles qui pourraient vous empêcher, vous, d'aimer Géoël. Jeanne ne la crut pas, ou la crut peut-être, mais elle n'évita pas cet homme à qui elle attachait un intérêt grandiose, idéal et passionné. Entre elle et lui, il y avait, pour embellir cette face criblée, la tragédie de sa laideur même, le passé des ancêtres, le sang patricien qui se reconnaissait et s'élançait pour se rejoindre, des sentiments et un langage qu'elle ne connaissait pas dans la modeste sphère où elle vivait, mais qu'elle avait toujours rêvé. Elle vint plus souvent chez la Clotte. Il y vint aussi, et comme je l'ai dit, il la dévoua à ses périlleux desseins. Ce fut alors que l'amour de Jeanne pour ce chef de guerre civile, grand à sa manière, comme ce Georges Cadoudal dont on parlait beaucoup à cette époque l'était à la sienne, se creusa et s'envenima de douleur, de honte et de désespoir. Car si le chef Chouan avait un instant caché le prêtre reparut bien vite, sévère, glacé, imperturbable. Le Géoël enfin dont on pouvait dire ce que sainte Thérèse disait du démon, le malheureux, il n'aime pas. Les souffrances de Jeanne furent intolérables. Elle ne pouvait les confier qu'à la Clotte qui lui avait prédit son malheur et raconté l'histoire de Delaïde. C'était avec cette paria des mépris de toute une contrée qu'elle se dédommageait des impostures courageuses de sa fierté. La Clotte, en effet, l'enthousiaste impénitente, la garce de Haut-Ménil, comme disaient les paysans de ces parages, comprenait seule cet amour, inacceptable aux âmes religieuses et tranquilles, qui devraient faire l'opinion dans tous les pays. Quant à l'abbé de la Croix-Jugan, lorsque les projets qu'il avait si opiniâtrement préparés eurent été trahis une fois de plus par la fortune de sa cause, devenu plus farouche et plus noir que jamais, il cessa de venir chez la Clotte. Il n'avait plus rien à y faire. Tout pour lui n'était-il pas perdu? Jeanne-Madeleine ne vit donc qu'à l'église l'effrayant génie de sa destinée. La religion s'était-elle ressaisie de ce prêtre dont le sort des armes ne voulait plus? Après avoir abdiqué l'espoir de vaincre, comme Charles Quint l'ennui de régner, l'ancien moine de Blanchelande se faisait-il dans son propre cœur un cloître plus vaste et plus solitaire que celui qu'il avait quitté dans sa jeunesse? Et prenait-il dans sa froide stalle de chêne la mesure du cercueil au fond duquel il se couchait tout vivant, en récitant sur lui-même les prières des morts? Qui sut jamais exactement ce qui s'agita dans cette âme? Ce qui est incontestable, c'est que le caractère funeste et terrible de toute la personne de l'abbé augmenta aux yeux des populations, qu'il avait toujours regardé comme un être à part et redoutable, à mesure que la physionomie de Jeanne marqua mieux les bouleversements et les dévorements intérieurs auxquels elle était en proie, comme si plus la victime était tourmentée, plus sinistre devenait le bourreau. Or, l'isolement dans lequel retomba volontairement le noir abbé, après la ruine de ses dernières espérances, fut la fin du courage de Jeanne. Mais la fin du courage chez la fille de Louisine à la hache était encore une chose puissante. Elle était de ces natures à la Marius qui prennent leur sang dans leurs mains et le jettent en mourant contre leur ennemi, fût-ce le ciel. Rien de lâche ou d'élégiaque n'entrait dans la composition de cette femme. Lorsque les derniers rayons du soir teignaient d'un rose mélancolique sa coiffe blanche sur la route de l'essai, à cette heure où le jour se met en harmonie avec les cœurs déchirés, elle ne sentait rien de faible, rien de languissant, rien d'énervé en elle. La pléthore de son cœur ressemblait à la pléthore brûlante de son visage. Seulement, elle se disait, en appuyant sa main ferme sur ce cœur qui lui battait jusque dans la gorge, que le dernier bouillonnement allait en jaillir, qu'après cela, le volcan serait vide et ne fumerait peut-être plus. Et cette pensée, plus que tout le reste, troublait et apesantissait sa démarche, car elle venait de prendre la résolution définitive qui est l'acte suprême de la volonté désespérée et qui produit sur l'âme énergique l'effet de la mise en chapelle sur le condamné espagnol. « Ah, vous êtes là, mère Clotte, » fit-elle d'une voix rauque et dure, la voix des grandes résolutions, en atteignant la vieille filandière, assise devant son rouet à son seuil. « Mon Dieu, Qu'y a-t-il de nouveau, mademoiselle de Feu Ardent ? S'écria tout à coup la Clotte, frappée de l'air et de la voix de Jeanne. Vous n'êtes pas comme tous les jours ce soir, quoique tous les jours soient tristes pour vous, ma noble fille. On dirait que vous allez faire un malheur. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à l'image de la Judith qui tua Holopherne, que j'ai à la tête de mon lit. Ah, fit Jeanne, avec une exaltation farouche et ironique. Attendez, mère Clotte, je n'ai pas encore du sang sur les mains pour me comparer à une tueuse. Je n'en ai encore qu'à la figure, et c'est le mien qui me brûle, mais qui ne coule pas. S'il eût coulé depuis qu'on l'y voit, je serais plus heureuse. Je serais morte et à présent tranquille, comme Dlaïde Malji, qui dort si bien dans sa tombe là-bas, ajouta-t-elle en tendant son bras qui tremblait vers la haie, par-dessus laquelle on voyait le toit bleu du clocher de Blanche-Lande, rongé par les violettes vapeurs du soir. Non, ne me comparez pas à Judith, mère Clotte. Ne disent-ils pas que l'esprit de Dieu était en elle? C'est l'esprit du mal qui est en moi. Et il y est si fort ce soir, cet esprit du mal, connu de vous aussi, Clotilde Mauduit, dans votre jeunesse, que j'en veux finir avec la vie, avec la réserve, avec la fierté, avec la vertu, avec tout. Rentrons, ma fille, on pourrait nous entendre à cette porte, et on en dit assez sur vous à Blanche-Lande, dit la Clotte presque maternelle. Et la paralytique prit son bâton à côté d'elle, et les deux mains dessus, elle passa le seuil de sa porte avec l'effort, douloureux à voir, d'une vieille couleuvre à moitié écrasée par une roue de charrette, qui traverse péniblement une ornière et va regagner en face son buisson. Jeanne Madeleine prit le rouet et suivit la Clotte. « Quenouille finie, » dit-elle en regardant l'ouvrage qu'avait fait la vieille femme, dont la journée avait été laborieuse. « Fierté finie et vie finie. Tout finit donc, excepté de souffrir. Qui sait, » continua-t-elle dans une rêverie sombre et en déposant le rouet à sa place ordinaire, si le fil roulé sur ce fuseau ne servira pas à tisser bientôt le drap mortuaire de Jeanne de Feu Ardent. Oh, ma pauvre enfant, dit la Clotte, qu'est-ce donc que vous avez ce soir? Je m'en vais vous le dire, reprit Jeanne avec un air de mystère qui tenait du délire et du crime. Elle s'assit sur son escabeau, auprès de la Clotte, mit son coude sur son genou et sa joue de feu dans sa main, et comme si elle allait commencer quelque récit extraordinaire. Écoutez, dit-elle avec un regard fou, j'aime un prêtre, j'aime l'abbé Géoël de la Croix-Jugan. La Clotte joignit les deux mains avec angoisse. Hélas, je le sais bien, fit-elle, c'est de là que vient tout votre malheur. Oh, je l'aime et je suis damnée, reprit la malheureuse, car c'est un crime sans pardon que d'aimer un prêtre. Dieu ne peut pas pardonner un tel sacrilège. Je suis damnée, mais je veux qu'il le soit aussi. Je veux qu'il tombe au fond de l'enfer avec moi. L'enfer sera bon alors, et il vaudra mieux que la vie. Lui, qui ne sent rien de ce que j'éprouve, peut-être se doutera-t-il de ce que je souffre quand les brasiers de l'enfer chaufferont enfin son terrible cœur. Ah, tu n'es pas un saint, Géoël, je t'entraînerai dans ma perdition éternelle. Ah, Clotilde Mauduit, vous avez vu bien des choses affreuses dans votre jeunesse, mais jamais vous n'en avez vu comme celles qui se passeront près d'ici ce soir. Vous n'avez qu'à écouter si vous ne dormez pas cette nuit. Vous entendrez l'âme de Dlaïde Malji crier plus fort que toutes les orfraies de la chaussée de Brocbeuf. Taisez-vous, Jeanne de Feu Ardent, ma fille, interrompit la Clotte, avec le geste et l'accent d'une toute puissante tendresse. Et elle prit la tête de Jeanne Madeleine et la serra contre son sein desséché, avec le mouvement de la mère qui s'empare d'un enfant qui saigne et veut l'empêcher de crier. Ah, je vous fais l'effet d'une folle, dit plus doucement Jeanne, que cette mâle caresse d'un cœur dévoué apaisa. Et je le suis bien dans un sens, mais dans l'autre, je ne le suis pas. J'ai essayé de tout pour être aimé de ce prêtre. Il n'a pas même pris garde à ce que je souffrais. Il m'a méprisé comme de l'Aïd Malji, comme vous toutes, les filles de Haut-Ménil, qu'il a dédaignées. Eh bien, je vous vengerai toutes. Il m'en coûtera ma part de paradis, mais je vous vengerai. Oh, j'ai été plus folle que je ne le suis aujourd'hui, mère Clotte. Il y a 6 mois, je ne vous l'ai pas dit alors. Je suis allée en cachette au berger. Je m'en étais longtemps moquée, d'eux et de leurs sortilèges. Mais j'y suis allée, le front bas, le cœur bas. J'ai reconnu celui que j'avais vu sous la porte du vieux presbytère, qui m'avait fait cette menace que je n'ai jamais pu oublier. Je l'ai prié, ce mendiant, ce vagabond, ce pâtre, comme on ne doit prier que Dieu, d'avoir pitié de moi et de m'ôter le sort qu'il m'avait jeté. J'ai usé mes genoux devant lui, dans la poussière de la lande. J'en aurais mangé, s'il l'avait voulu, de cette poussière. Je lui ai donné mes pendants d'oreilles, ma jeannette d'or, mon esclavage, mon épinglette, et de l'argent, et de tout. Et je lui aurais donné de mon sang pour qu'il me découvrît un moyen de me faire aimer de Jéhoël, s'il y en avait un. Le misérable va-nu-pied, après bien des refus, aiguisé par la haine et la vengeance, a fini par me dire qu'il fallait porter une chemise sur ma poitrine, l'imbiber de ma sueur, et la faire porter à Jéhoël. Le croiriez-vous, mère Clotte? Jeanne de Feu Ardent n'a pas pris cela pour une injure. Elle a cru que c'était un conseil. L'amour nous abêtit-il assez, nous autres femmes? J'ai taillé et cousu de mes mains éperdues cette chemise, et je l'ai portée sur ce corps que la seule pensée de Jéhoël baignait de feu. Je l'en ai imbibé, traversé. Je l'aurais imbibé de mon sang si le berger avait dit que c'était du sang qu'il fallait à la place de sueur. Puis, un soir que la porte de la maison de Jéhoël était entr'ouverte et que je l'avais entendu qui parlait dans son écurie avec ses chevaux, les seules créatures vivantes qu'il ait l'air d'aimer, je m'y glissais comme une voleuse et je jetais la chemise sur son lit, espérant qu'il la mettrait, la trouvant sous sa main, sans y penser. L'a mit-il? Je ne sais pas, mais s'il l'a mise, il n'a pas mis l'amour avec. Hélas, il ne m'aima pas davantage. Il fallait qu'elle n'eût pas séché, fit le berger en ricanant et en me retournant ce couteau dans le cœur. C'était me demander l'impossible. Le pâtureau se vengeait, mais la taie que j'avais sur les yeux tomba. Je n'allais plus au berger. Et pourtant la crédulité me tenait toujours. Dans toutes les foires et les marchés, je consultais les tireuses de cartes. Elles ne disaient jamais qu'une seule chose, c'est que j'aimais un homme brun qui avait un pouvoir supérieur au leur et que cet homme brun me tuerait. Ah, j'étais déjà tuée. Est-ce que je suis cette Jeanne de Feu Ardent, connue jadis à Blanchelande et à l'Essai? Est-ce que ce malheureux visage, affreux comme une apoplexie, dit que je suis une femme vivante? Oui, je suis tuée. Jéhoël m'a tuée. Mais moi, je lui tuerai son âme. Je ne finirai pas comme ce misérable pigeon sans fiel de Dlaïd Malji, qui n'a su que se rouler à des pieds d'homme et puis mourir. Un étrange sourire passa sur les lèvres de l'ancienne odalisque des sultans de Haut-Ménil, en entendant ce cri de la femme qui sait la force de la tentation que son péché a mise en elle. « Insensé, fit-elle, insensé, tu ne connais donc pas encore ce Lacroix-Jugant ?» Et avec une force de regard et d'affirmation qui troubla Jeanne, malgré le désordre de tout son être, elle ajouta « Quand tu te mettrais encore plus bas que la Malji aux pieds de cet homme, tu ne pourras jamais ce que tu veux. » « Ce n'est donc pas un homme ?» dit Jeanne avec un front de bronze, tant les sentiments purs de la femme, le chaste honneur de toute sa vie, avaient disparu dans les flammes d'une passion plus forte, hélas, que 15 ans de sagesse et enflammée par 18 mois d'atroces combats. C'est un prêtre, répondit la Clotte. Les anges sont bien tombés, dit Jeanne. Par orgueil, répondit la vieille, aucun n'est tombé par amour. Il y eut un moment de silence entre ces deux femmes. La nuit, chargée de ses mauvaises pensées, commença de pénétrer dans la chaumière de la Clotte. Il aime la vengeance, fit profondément Jeanne-Madeleine, et je suis la femme d'un bleu. Ce qu'il aime, qui le sait, ma fille, répondit la Clotte, plus profonde encore. Il n'a jamais peut-être aimé que sa cause, et sa cause n'est point dans tes bras. Ah, s'il pouvait écraser tout ce qu'il y a de bleu sous ton matelas, peut-être s'y coucherait-il avec toi. Oui, même au sortir de la messe, la bouche teinte du sang de son Dieu qui le condamnerait. Mais, à toi seul, tu n'as à lui offrir qu'un cœur qu'il dédaigne dans sa pensée de prêtre, comme une proie destinée au ver du cercueil. Et si tu te trompais, la Clotte, fit Jeanne en se levant impétueusement de son escabeau. Non, Jeanne de Feu Ardent, fit la vieille Clotte avec un geste d'écube. Non, je ne me trompe point. Je le connais. Ne vous avilissez point pour cet homme. Gardez votre grand cœur. N'allez pas à la honte, ma fille, pour n'en rapporter que les rebuts du mépris. Et elle saisit Jeanne par le bas de son tablier de cotonnade rouge pour l'empêcher de sortir. Ah, la vieillesse t'a donc rendu lâche, Clotilde Mauduit, fit Jeanne exaspérée et en qui le dernier éclair de la raison s'éteignait. Quand tu avais mon âge et que tu étais amoureuse, aurais-tu tremblé devant la honte et t'aurait-on arrêtée en te parlant de mépris? Et elle tira brusquement son tablier qui se déchira et dont le lambeau resta dans les mains crispées de la Clotte. Elle s'était précipitée hors de la chaumière comme une folle qui s'échapperait de l'hôpital.